La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews.
De l'actualité.
Des chroniques, des reportages.
De la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Sans Ferriole.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Radio Sans Ferriole. Vous êtes dans l'émission La Collective, l'émission qui est faite par tous les bénévoles qui le souhaitent. Aujourd'hui, nous sommes deux au studio pour parler d'agriculture et de transmission des fermes, et notamment des grandes fermes céréalières de la Drôme. Donc il y a moi, Marie-Leïla, donc bénévole à la radio, mais aussi bénévole à Terre de Liens, et je suis avec Alain, qui est aussi bénévole à Terre de Liens. Bonjour Alain.
Bonjour Laïa.
Et donc, avant de vous parler de Terre de Liens, de transmission dans la Drôme, je voulais un peu vous rappeler un contexte agricole français, national. Donc, commencer par quelques chiffres. En 1955, il y avait 2 280 000 exploitations ou fermes. Et en 2023, 410 000. Donc, on a perdu 1,9 million d'exploitations en 60 ans. Et aussi, il y a une diminution du nombre d'agriculteurs. Donc, entre 1960 et 2016, on est passé de 4 millions à 824 000. Donc, une perte de 80% d'agriculteurs en 50 ans. Et aussi, ça s'accompagne d'un vieillissement des agriculteurs et agricultrices. Donc, en 2016, l'âge moyen était de 55 ans et 58% des agriculteurs et agricultrices avaient entre 40 et 60 ans. Donc, ça veut dire que la moitié des agriculteurs prendront leur retraite dans les 10 ans et auront besoin de... Enfin, partiront à la retraite et que leurs terres seront libérées. En 2019, on comptait 21 000 départs et 13 400 installations. Donc, ça fait un taux de remplacement de 64%. Et deux tiers des surfaces libérées vont à l'agrandissement, ne sont pas reprises par de nouvelles personnes qui deviennent agricultrices et agriculteurs. Donc, il manque en fait 7 000 installations par an. Et c'est important d'en parler parce que souvent on parle d'agriculture, les débats autour de l'agriculture, c'est l'adaptation au changement climatique, les pesticides. Donc c'est des choses qui font débat, l'impact sur la santé, sur l'environnement. Et en fait, c'est très en lien avec cette diminution du nombre d'agriculteurs et de fermes, puisque en fait, les fermes se concentrent. Les terres se concentrent. Pour vous donner une idée, en 1970, la taille moyenne était de 20 hectares. Et en 2020, la taille moyenne était de 70 hectares. Donc, ça montre la concentration des terres et qui va avec la diminution du nombre de fermes. Et il y a d'ailleurs de nombreux villages où avant, dans les années 70, il y avait 3, 4, 5 fermes et maintenant il n'y en a plus ou alors il y en a une. Et parfois les fermes s'étendent sur plusieurs communes, les terres, sur plusieurs communes. Ça fait moins de monde pour s'occuper des terres. Et... comme je disais, sur les installations, donc il manque des installations. Et parmi les installations, 50% des personnes qui s'installent hors cadre familial, ça veut dire ne reprennent pas une ferme de leur famille. Et 60% des porteurs de projets, donc qui veulent s'installer, ne sont pas issus du milieu agricole. Donc ça pose la question de comment les personnes peuvent s'installer, donc en achetant ou en louant des fermes. Donc c'est un vrai défi. Et encore un petit dernier chiffre qui peut aussi expliquer la difficulté à s'installer. Le prix moyen d'un hectare a aussi fortement augmenté. En 20 ans, il a augmenté de 50%. Et il est actuellement, sur toute la France, à 6 000 euros l'hectare. Donc on peut imaginer ce que ça représente pour une ferme de 70 hectares, puisqu'on disait que c'était la taille moyenne. Et donc voilà, ça c'est quelques chiffres pour vous présenter en fait le défi de la transmission agricole, que ça ne se fait pas tout seul et que ce qui se fait plutôt naturellement, c'est plutôt que les terres aillent aux agriculteurs voisins plutôt qu'à des nouvelles personnes qui s'installent. Et c'est pour ça en fait que Terre du Lien a été créée dans les années 2000. Au début des années 2000, c'est pour faciliter l'accès aux terres aux personnes non issues du milieu agricole qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les fermes. Alors avant de passer à la présentation de Terre du Lien, je vous propose d'écouter une petite chanson qui illustre un peu cette situation et le pourquoi on œuvre pour des fermes nombreuses sur les territoires.
Au début, moi, je chantais ça tout bas. J'avais bien trop peur qu'on se moque de moi. J'avais peur qu'on me traite de fou, de romantique ou de jaloux. Mais sur mon tracteur ou sous ma douche, j'avais toujours ce refrain-là à la bouche. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Oh, trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Mais pourquoi qu'on les ferme? Ben, je me demande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Après sont arrivés des boulangers, des charcutiers, des épiciers, des mécaniciens et des marchands de chiens, des pharmaciens et même le curé du coin. Tous ces gens-là qui mettront la clé sous la porte le jour où la vie chez nous, elle sera morte. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Mais pourquoi qu'on les ferme? Je me demande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Après c'était les enfants et les maîtresses d'école et tous les parents dont les rêves s'envolent, les propriétaires de maisons sans valeur, les fermiers sans terre ou sans successeur, tous ceux qui aiment la nature pour s'y promener et qui voient que si ça dure, il va plus rien rester. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Ou qu'on m'enferme ou qu'on me pende, trois petites fermes valent mieux qu'une grande. À tous ces paysans qui vont quitter leur vallée au Pérou, à Ceylan ou en Guinée, partout les mêmes lois, la même chanson, celle du chacun pour soi, c'est la loi du plus con. Au début, moi je chantais ça tout bas, j'avais bien trop peur qu'on se moque de moi. Et on y voit les épiciers. Trois petites fermes
et les boulangers
valent mieux qu'une grande.
Et les maîtresses d'école.
Oh, trois petites fermes
et les parents
valent mieux qu'une grande.
Et les rêves sont
qu'on m'enferme ou qu'on me pende, trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande.
Et vous êtes toujours sur Radio Saint-Ferréol dans l'émission La Collective et nous parlons de transmission et de Terre de Liens, de l'association Terre de Liens, le mouvement Terre de Liens qui œuvre pour la transmission des fermes en bio. Et vous venez d'entendre le chanteur paysan Jules Marcard avec sa chanson « Trois petites fermes » qui illustre bien le défi de garder des fermes nombreuses. Et comme on l'a dit juste avant, en fait, après-guerre, à partir des années 1955-1960, il y a eu un remembrement déjà et une forte concentration des terres qui ont amené à un agrandissement des fermes. Et aujourd'hui, ces fermes sont difficilement reprenables, d'où l'existence de Terre de Liens. Et je suis aujourd'hui avec Alain, qui est aussi bénévole à Terre de Liens, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Terre de Liens.
Donc Terre de Liens, c'est une association qui a vu le jour au début des années 2000 et qui a vu sa naissance dans la Drôme. Ses fondateurs sont de la région. Et c'était pour répondre au problème, comme l'a évoqué précédemment, de la transmission. Alors la particularité de Terre de Liens, c'est déjà que les fermes qui sont transmises ou à transmettre, ce sont des fermes qui sont dans le bio. Toute la culture, l'agriculture est liée au bio. Et l'autre point, l'autre particularité, c'est que Terre de Liens achète les fermes. Ce n'est pas qu'un intermédiaire qui permet une transmission. C'est-à-dire que la particularité importante, car il y en a peu d'associations comme Terre de Liens qui le font, c'est que les fermes sont achetées par Terre de Liens et elles sont mises en location à des porteurs de projets qui, du coup, n'ont pas à investir un énorme capital, s'endetter sur des années et des années, et leur permet, pourquoi pas, au bout de 10 ans ou 15 ans, si la vie fait qu'ils se tournent vers un ou d'autres horizons, cette ferme, ils peuvent la lâcher et permettre à un autre porteur de projet de poursuivre la vie de cette ferme qui restera toujours en bio. Et l'élément important aussi qu'il faut avoir, qui a été réfléchi derrière tout ça, c'est que ces fermes, maintenant, elles sont préemptées par l'association Terre de Liens et qu'elles resteront toujours en bio. Ça, c'est un élément non négligeable, quel que soit le porteur de projet et la suite de ces porteurs de projet.
Est-ce que tu peux rappeler comment elles sont, avec quel argent elles sont achetées, ces fermes ?
Voilà. Donc, l'association Terre de Projet, du coup, s'est structurée pour pouvoir récolter des financements, de l'argent, qui sont principalement de l'argent citoyen, hein, et avec quelques entreprises qui œuvrent aussi dans le bio, qui investissent aujourd'hui. Comment est structurée l'association Terre de Liens? Donc, on a une foncière, qui est une structure juridique, qui permet de collecter cet argent, une fondation, qui permet de collecter des dons, et une association qui œuvre aussi pour tous les aspects de transmission, etc. L'association Terre de Liens, c'est des salariés qui travaillent dans ces trois entités, et aussi des bénévoles. Parce que sans les bénévoles, le travail est quand même extrêmement lourd, important, faire connaître Terre de Liens. Sans les bénévoles, l'association Terre de Liens serait limitée dans son action. Voilà ce que je pourrais dire en deux mots sur Terre de Liens. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres points.
Oui, peut-être qu'on peut dire en effet que donc, les bénévoles ont une place très importante dans ce travail, et notamment en Rhône-Alpes et dans la Drôme. Et dire qu'on a acheté en Drôme 7 fermes. Et là, on va vous parler plus particulièrement de l'acquisition de la 7e ferme qui a été achetée donc, il y a presque un an, le 30 novembre 2023. Et il s'agit d'une ferme céréalière de la plaine de Valence. Voilà, et ça, cette aventure a commencé en 2019 lorsque le cédant a contacté Terre de Liens.
Voilà, donc ce qui est important dans le principe de la transmission des fermes à Terre de Liens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, comme l'a évoqué tout à l'heure Marie-Layla, il y a un certain nombre de paysans, d'agriculteurs qui arrivent à l'âge de la retraite et qui se disent comment transmettre ma ferme, à qui je vais la transmettre. Et principalement, donc c'était le cas de ce propriétaire, la ferme des Places, qui a œuvré énormément dans le bio, qui était un pionnier du bio dans, localement, et qui a fait un travail pendant 40 ans, 45 ans, qui était une ferme aussi qui venait de ses parents, mais il n'avait pas de descendance. Et du coup, il s'est dit, tout ce travail, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai réalisé dans le bio, comment faire pour qu'il ne soit pas perdu ? Et ça se pose la question, est-ce qu'ils vont être rachetés par les agriculteurs voisins ou est-ce qu'ils vont être rachetés, préemptés par quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément un agriculteur qui souhaite poursuivre dans le bio. Donc il y a cette difficulté. Donc il s'est tourné vers Terre d'Olien pour que sa ferme perdure avec d'autres agriculteurs ou agricultrices. Donc il y a eu un contact établi avec Terre de Liens. Et une fois ce contact établi, où les deux parties étaient d'accord de pouvoir poursuivre ensemble, on passe à la deuxième phase, la phase qui y est très très longue, hein, qui est le comment on trouve des porteurs ou porteuses de projets qui vont pouvoir prendre la ferme en main et amener un projet durable dans l'année.
Est-ce que avant de parler de la recherche de repreneurs, est-ce que tu peux présenter la ferme pour nos auditeurs pour qu'ils se rendent compte justement de qu'est-ce que ça représente ?
Alors la spécificité de cette ferme, c'est que c'est une ferme déjà d'une certaine taille quand même. C'est une ferme de 100 hectares, céréalière principalement, ou plutôt grande culture. Sur les 100 hectares, il y avait 67 hectares en propriété propre, hein, donc c'était la partie qui allait être cédée à Terre de Liens, avec 5 bâtiments agricoles, assez importants aussi. La principauté, donc, c'était des grandes cultures, des semences, des engrais verts, etc.
Et tout irrigué, je crois.
Alors, le point important dans cette zone-là, d'être Valence, qui est une zone un peu sec, c'est que c'est une zone qui est irrigable. Donc, il y a une capacité d'irriguer, il y a des droits d'irrigation qui sont acquis, établis et qui permettent à ces cultures de pouvoir exister.
Ouais, et peut-être qu'on peut rajouter le prix, justement, pour que les gens se rendent compte à quel point c'est pas tout le monde qui peut acheter une ferme de cette taille, même juste les 60 hectares. En fait, c'est une zone, la plaine de Valence, où l'hectare est autour de 11 000 euros l'hectare.
Voilà. Donc, pour situer un peu l'enveloppe financière, c'est une enveloppe d'environ 1 million d'euros qui comprenait les terres et les bâtiments agricoles, mais qui ne comprenait pas la maison d'habitation du propriétaire qu'il a gardée, puisqu'il y habite toujours avec sa compagne.
Et donc en fait, c'était une ferme donc en grande culture, assez grande, assez un prix conséquent. Faut savoir que la Drôme, enfin ça peut sembler grand pour les gens qui connaissent pas, mais en fait pour une ferme céréalière c'est pas du tout grand si on compare à d'autres zones de France, et c'est même limite pour avoir une certaine rentabilité, et c'est grâce à l'irrigation que les agriculteurs peuvent produire assez pour être plus ou moins rentables. Mais la question de la rentabilité aussi est un enjeu fort, parce que même si c'est en bio, c'est quand même lié au prix du marché, donc ils ne maîtrisent pas tout leur prix. Ils ont aussi des intrants, enfin des charges qui augmentent, donc leur la rentabilité est un peu fragile. Et donc c'est aussi pour ça que c'est dur de trouver des personnes capables de reprendre, même en dehors d'acheter, même en louant.
Donc Marie-Léla, est-ce que tu pourrais nous parler quand même des premiers contacts qui ont été faits avec les futurs porteurs de projets, ce qu'on appelle comme ça chez Terre de Liens, sachant que il faut comprendre que au départ le propriétaire est très investi dans le choix du futur porteur de projet, et on peut le comprendre puisque c'est sa vie qui va être donnée. Donc une partie de sa vie professionnelle, de son travail. Donc il a un regard, même si c'est après avec Terre de Liens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? comment ça s'est passé au début.
Et oui, c'est vrai que pour lui, c'était important d'avoir quelqu'un déjà qui reprend en bio et qui ait un fort ancrage sur le territoire, qui a envie de travailler avec les autres agriculteurs du territoire, les organismes, parce que lui, par exemple, le cédant était très impliqué à Agribiodrome. Il était très longtemps engagé à Agribiodrome, il était engagé dans l'expérimentation agricole. Et donc, il avait envie, dans l'idéal, de trouver des gens qui sont un peu dans cet esprit-là. Et donc, il y a eu... Donc, il nous a contacté fin 2019 et à partir de 2020, il y a eu un premier appel à projet jusqu'à juin. Et donc, il y a eu des réponses. Et il y a une personne, en fait, à ce moment-là, c'était plus dans l'esprit de reprise à l'identique. C'est-à-dire grande culture, sans valeur ajoutée spécifique puisque ce n'était pas transformé. Et donc, voilà, il y avait une personne qui aurait pu s'installer sur cette ferme, mais ça l'a pas fait justement pour des choix personnels en fait du cédant, et même aussi par rapport à Terre de Liens. On l'a pas dit, mais Terre de Liens, on va sélectionner des personnes pour s'installer sur les fermes selon plusieurs critères. Donc, la rentabilité économique de leur projet, mais aussi des critères de...
Éthique,
voilà, liés à la bio. Mais aussi, plus que éthique, c'est en fait d'engagement pour, on va dire, porter... le discours de Terre de Liens, porter la thématique de la transmission, de l'installation en bio et d'être en lien avec les acteurs du territoire. Donc c'est vrai que cette personne au début n'était pas forcément dans cet esprit-là, était plutôt dans un esprit entrepreneurial personnel. Et donc ça n'a pas fait avec cette personne. Et ensuite, il y a eu plusieurs appels à projets. Mais ce que je veux raconter... C'est que, donc, comme je vous disais, au début, ils voulaient, les cédants, imaginer une reprise à l'identique. Et suite à donc, déjà qu'il y avait eu très peu de réponses, en fait, le cédant s'est entouré d'un groupe. Dans ce groupe, il y avait des bénévoles de Terre de Liens, mais il y avait d'autres paysans du coin et d'autres organismes aussi. Et c'était pour réfléchir à qu'est-ce que cette ferme peut devenir. Et donc, c'est suite... Donc, il y a eu plusieurs réunions, une réflexion. Et c'est juste à cette réflexion qu'on a imaginé que cette ferme, s'ils voulaient vraiment la transmettre en bio... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont un projet de reprendre une ferme en grande culture. Une grande ferme en grande culture, ça correspond plus au souhait, ou à très peu de personnes en tout cas qui ont ce souhait de continuer à travailler comme ça, et notamment pour des raisons économiques, parce que c'est très risqué, enfin c'est assez aléatoire, et donc il fallait ouvrir les possibles pour que cette ferme puisse rencontrer des gens qui a un projet compatible. Et donc, suite à cette réflexion, il y a eu un autre appel à candidature qui était plus ouvert, qui proposait aux gens de venir sur cette ferme et d'imaginer quel projet pouvait faire. Donc, dans cet appel à candidature, il y avait une présentation de la ferme, de ses caractéristiques, de ce qu'il y avait dessus à ce moment-là, mais en disant que c'était possible d'imaginer autre chose. Et donc, il y a eu une visite collective et même plusieurs contacts. Il y a eu cette visite collective où il y a eu un collectif de 8 personnes qui avaient envisagé de s'installer sur cette ferme et d'autres projets. Et en plus de cette visite collective, il y a eu d'autres personnes qui ont pris contact grâce à cette annonce qui a été postée sur le site Objectif Terre. Donc, c'est un site de Terre de Liens, un site de petites annonces de fermes à reprendre. Et donc, ça a duré un moment. Et pour plusieurs raisons, les personnes ont... Enfin, ça l'a pas fait, en fait, pendant un moment. Tu voulais peut-être préciser.
Oui, je voulais juste faire comprendre que les futurs acquéreurs, futurs porteurs de projets, hommes ou femmes, Soit c'est des démarches individuelles, soit ça peut être aussi des démarches collectives. Et on s'aperçoit que l'aspect collectif est devenu important parce que les gens ne sont plus seuls pour travailler. Ça ne veut pas dire que l'aspect collectif, il est à la fois individuel et collectif. Je m'explique. C'est-à-dire que ça va être une paysanne qui va faire de l'élevage de chèvres, l'autre qui va faire des céréales, l'autre qui va être paysan boulanger, etc., etc. Donc chacun a sa spécificité qu'il développe lui-même, qui est son entité, mais en même temps dans un collectif. Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'épaule. Alors, le collectif aussi, ça amène d'autres soucis, hein, des choses, des points, des divergences à régler. Mais néanmoins, il y a une partie individuelle et une partie où on est aussi avec d'autres personnes et on peut se retrouver, s'épauler. Et si les fêtes, et surtout, alors aujourd'hui, c'est pour éviter quand même de travailler énormément. Donc, à un moment, les gens peuvent prendre, pourquoi pas, un jour de congé ou des vacances. Les autres sont présents, etc. Il y a des possibilités autres. Et ça, ça répond à l'évolution sociétale et l'évolution de l'agriculture aujourd'hui. Et ça, c'est, comme l'a dit Laïla, c'est venu, le Sénan, il a fait un pas sur ça, puisque lui, il était seul, il faisait bon, l'agriculture bio, mais traditionnelle, en se levant tôt et en fait, terminant tard. Et donc, du coup, on est arrivé à trois porteurs de projets.
Peut-être, je vais présenter quelque chose avant, aussi, qui est important pour comprendre, c'est que il y avait un contexte de forte pression sur le foncier. Et du coup, au début, le Sénan ne voulait pas qu'on diffuse l'annonce, ne voulait pas que ce soit public. Il voulait qu'on trouve que dans des réseaux restreints. Et ça, c'est vraiment parce qu'il avait peur que cette ferme soit démembrée et aille soit partagée entre les voisins. Parce qu'en fait, des voisins, pour expliquer, des gens qui ont déjà, par exemple, 100 hectares, sont prêts à monter les prix pour avoir 10 hectares de plus ou 20 hectares de plus ou 50 hectares de plus, sont prêts à payer plus à l'hectare. Et donc, il y avait un risque que les autres propriétaires vendent à d'autres voisins. Donc ça aussi, ça a été un frein dans un premier temps de ne pas vouloir diffuser l'annonce publiquement. Puis après, c'est grâce à ce groupe qui s'est saisi collectivement de l'avenir de cette ferme, ça l'a rassuré et c'est ce qui a permis de diffuser plus largement et donc que ces personnes que des personnes puissent avoir l'information et nous répondre. Et tu voulais parler des trois derniers qui nous ont contactés.
Oui, je voulais juste ajouter à ce que tu viens de dire pour que tout le monde comprenne bien. La différence quand on vend une ferme, c'est complètement différent de vendre un bien immobilier comme un logement ou une maison. Quand vous êtes propriétaire d'un logement, vous le vendez, c'est vous qui décidez à qui vous allez le vendre. Mais une propriété agricole, ce n'est pas le vendeur qui décide à qui va le vendre. Ça passe par la SAFER et le futur acheteur peut lui échapper. Ce n'est pas lui qui décide si c'est telle ou personne. C'est une spécificité qu'on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le débat parce que c'est très long. Donc ça explique tout ce que vient d'expliquer, veut dire tout ce que vient d'expliquer Marie-Léla à ce sujet-là.
Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la SAFER, c'était aussi important de le dire parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de la SAFER. Mais la SAFER, c'est un organisme qui s'occupe des terres agricoles et aussi du bâti. Et donc, c'est un organisme qui a une vocation d'intérêt général, de faciliter, de permettre les installations et d'éviter l'agrandissement des fermes. En tout cas, de limiter l'agrandissement des fermes. Mais en fait, c'est le fonctionnement de cet organisme, c'est un peu comme un notaire, c'est-à-dire qu'il est payé par ses ventes, une partie de la vente. Et donc, parfois, ça fait, on peut dire, un conflit d'intérêts, en tout cas dans les ventes, c'est-à-dire qu'il peut avoir intérêt à vendre cher. Et aussi, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que après, un fonctionnement politique, c'est-à-dire que la SAFER, il y a un comité technique qui est constitué de représentants des syndicats, de plusieurs des élus aussi. Donc, le Sénan avait aussi peur de la SAFER, que la SAFER ne joue pas le jeu de garder cette ferme entière pour installer une personne ou plusieurs personnes dessus. Mmh. Et ce qui a permis de... C'est important de raconter aussi que... Donc Valence Roman Agglo, l'agglomération, avait déjà commencé à réfléchir sur la transmission des fermes. Donc avait une personne, avait du personnel sur le foncier, sur l'agriculture, les circuits courts et l'autonomie alimentaire du territoire. Et donc, dans le cadre de leur réflexion, leur politique agricole, eh ben, ils avaient regroupé différents acteurs, dont Terre de Liens, la SAFER, la Chambre d'agriculture, d'autres associations agricoles comme la DEAR. Et en fait, à travers ce groupe de travail, ils se sont saisis de la transmission de cette ferme. Et donc, il y a eu vraiment un travail partenarial. Et c'est grâce à ce travail partenarial financé par l'agglomération de Valence que la SAFER a joué le jeu d'accompagner la transmission. Et donc, nous, on a pu travailler avec la SAFER, par exemple, sur les estimations de la ferme.
Voilà, donc il faut comprendre qu'il y a un regard quand même territorial des différents organismes quand on vend la ferme. C'est-à-dire ce qui n'est pas le cas quand vous vendez un logement. Mmh. Vous êtes tout seul avec le futur acheteur. Mais donc là, c'est pour ça qu'il y a toutes ces réunions, la SAFER fixe un peu le prix en lien avec l'acheteur, mais le prix, il est fixé en négociation avec la SAFER. C'est la SAFER qui a le dernier mot, c'est pas l'acheteur. Hein, voilà. Donc, on a rencontré un groupe de collectif de porteurs de projets. Hein.
Ouais, c'était plutôt un couple et une autre personne qui ont répondu à l'annonce.
Donc, c'était trois. Alors, c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, enfin, dont les parents n'étaient pas agriculteurs. Hein. C'est aussi une des raisons pour laquelle Terre de Liens est importante, parce que ceux qui ont un patrimoine familial peuvent continuer, mais il y a tout un ensemble de personnes qui ont envie de travailler dans le milieu agricole et qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et donc, comment... Il y a aussi tout un ensemble de gens qui sont agriculteurs qui n'auront pas de repreneurs. Donc, comment se met en contact ces deux personnes? Donc, il y en a un qui était... donc, le couple Lune et Bénédicte est plutôt maraîchère, donc a fait une formation de maraîchère, travaillait localement dans une association ferme qui faisait du maraîchage. Son mari, Charles, travaille aussi, mais lui, il est plutôt diversifié sur l'arboriculture. Il a aussi travaillé dans l'arboriculture. Et Guilherme, le troisième, qui lui est paysan, meunier et boulanger à terme. Donc ces trois porteurs de projets sont venus avec leur projet en présentant les grandes lignes de ce qu'ils souhaitaient faire, donc évidemment en bio. Là, donc, je rappelle, donc, cultiver les terres, prendre une surface des terres importante, de mémoire 50 hectares, les travailler en céréales, faire la meunerie et à terme la boulangerie. Et Charles, planter des arbres sur 4 ou 5 hectares, amener à terme, pareil, arboriculture, fruits, vente, et Bénédicte, qui faisait le maraîchage sur le reste des fermes et autres. Donc rapidement, il y a eu une possibilité technique avec les fermes, les terres qui ont été divisées. Il y avait trois bâtiments, un qui allait plus pour le maraîchage et les arbres fruitiers, les autres qui allaient pour les machines et puis plus les céréales, la meunerie. Tout ça s'est mis en place et se coordonnait alors, en termes de projet un peu de possible. Voilà. Mais ça.
Oui, donc, d'ailleurs, juste dire qu'on les a mis en contact et en se rencontrant, ils ont pu voir que c'était possible. Voilà. Et ils étaient ouverts à partager une ferme.
Voilà. Alors, l'autre point après, quand il y a l'aspect après. Financier, bon, l'aspect prêt, etc., mais aussi l'aspect projet, comment on se déroule, est-ce que ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, le temps de travail, les recettes, etc., les dépenses. Donc, ils ont été accompagnés aussi, ou ils se sont fait accompagner. On est allé à quelques réunions avec eux pour vérifier, pas la validité, mais comment ils s'y prenaient, et puis la validité du projet. Ça a pris quelques semaines, quelques mois pour qu'ils réfléchissent à leur projet, à la fois sur l'aspect professionnel, technique et financier, qui a abouti, qui était abouti. Voilà.
Donc, peut-être qu'on doit préciser aussi que nous, en tant que bénévoles, c'est nous qui défendons le projet auprès d'un comité d'engagement national. Mmh. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait besoin de bien connaître les projets, bien connaître la ferme.
Voilà. Donc, l'affaire, la transmission avance. Le cédant, il est connu. Le cédant, les porteurs de projet sont connus. Le projet est viable. Les cédants et les porteurs de projet sont main dans la main. Ça fonctionne. J'ajouterais que les porteurs de projet, ils ont un aspect collectif ensemble. Ils ont réfléchi à cet aspect-là. Même, il y a un petit bâtiment qui est environ 50 mètres carrés qui sera leur bureau collectif. Et pour faire, ils avaient imaginé des réunions par semaine pour discuter, etc. Donc, il y a une réflexion à la fois sur l'individuel et sur le projet collectif.
Un point de vente aussi.
Un point de vente, voilà. Une fois ça, après, chez Terre de Liens, il faut le bénévole en lien avec les salariés de l'association, en lien avec les foncières. Il faut monter le projet sur un papier et le présenter à une sorte de comité d'engagement. Oui, c'est un comité. Il y a différents niveaux de comité. Il y a un premier niveau qui déjà regarde, commence à déchiffrer, voir si on peut aller plus loin dans l'approche, dans le projet. Donc, on a passé ces premières étapes-là jusqu'à arriver à la dernière étape. Je vous passe toutes les étapes qui sont celles de la présentation du projet au comité d'engagement. Donc là, le projet est validé avec la foncière. On l'a validé techniquement, on l'a validé financièrement. La foncière a fait une simulation sur 10 ans, 30 ans pour voir comment ils équilibrent, puisque le principe, c'est que la foncière achète et récupère des loyers qui, au bout d'un certain nombre d'années, 20 ou 30 ans, s'équilibreront tout ça.
Oui, parce que juste qu'il faut dire que la foncière est très soumise à des réglementations. Le fait de collecter de l'épargne citoyenne, elle doit s'assurer que la valeur de l'action reste constante, en suivant même un peu l'inflation. Et donc ça, c'est pour ça qu'elle est très regardante, pour pas que son patrimoine en fait diminue de valeur. Et voilà, ça c'est une garantie pour les gens qui placent leur argent dans la foncière, qu'ils soient sûrs qu'ils vont pouvoir le reprendre s'ils veulent le reprendre et garder sa valeur, quoi.
Oui, on peut pas acheter un projet qu'on sait pertinemment, qui paraît sympa, mais qui n'est pas viable du tout. Entre pas viable du tout, ça veut dire que c'est difficile. Ok, ça peut être acheté, mais pas viable du tout. On sait pertinemment qu'au bout d'un an ou deux ans, ça va capoter. Ça, c'est pas possible.
Peut-être qu'on peut préciser pour les auditeurs et auditrices, pour leur culture générale, que les loyers agricoles sont encadrés par arrêté préfectoral et ils sont relativement faibles pour que ce soit pas une charge pour les agriculteurs. Mais ça fait que pour les propriétaires, qui sont responsables de toutes les travaux sur la structure, c'est parfois un peu difficile d'être à l'équilibre.
Oui, donc là, je reviens un peu à ma comparaison tout à l'heure avec le logement, enfin l'immobilier en général. À la fois, le prix du bien est encadré sur les terres et sur les bâtiments, et à la fois, il est encadré par des arrêtés préfectoraux sur la location des terres et des bâtiments. Voilà. Donc, du coup, il y a eu cette réunion au comité d'engagement, cette présentation. Le comité d'engagement a validé. Et donc, après, on passe à la dernière phase, qui est l'achat. Donc là, c'est une phase un peu juridique, de contact entre notaire de Terre de Liens, notaire du propriétaire, qui amène à un achat. Et donc, cet achat a été fait l'année dernière, il y a un an, en novembre 2023. Et depuis cet achat, donc les trois porteurs et porteuses de projets ont pris la ferme, sont en activité, On va bientôt fêter le premier anniversaire de leurs activités. En deux mots, ça s'est vraiment bien passé cette première année. Ça se passe bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire que ça se passe bien ? Bon, le premier point, c'est que ça avait quand même été étudié, réfléchi, et qu'il y a vraiment un lien important entre les porteurs de projets et entre les porteurs de projets et le cédant. Ça, c'était une question qu'on s'était posée parce que le cédant, il est resté sur le lieu puisqu'il y habite toujours. Donc, on s'était naturellement posé la question à se dire s'il est sur place, est-ce qu'il ne va pas être trop présent, souhaiter qu'on mette en place des choses qu'il a mis en place derrière, etc. Donc, il est présent. Il répond aux questions sur des conseils. Mais il s'est aussi laissé la place à des nouvelles manières de travailler. Et ça, c'est vraiment très, très chouette.
Oui, ça, c'est vraiment très chouette. Et c'est souvent une crainte, même des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui préfèrent créer leur activité plutôt que... Enfin, même créer leur ferme plutôt que reprendre une ferme. Parce qu'ils ont très peur du lien avec la personne qui était là avant, qui arrive, qui peut avoir du mal à couper... à se retirer parce que c'est quelque chose qui a été très présent. Enfin, ils ont été très impliqués. C'était leur ferme. Lui, en plus, c'était sa ferme familiale. Donc, c'était une crainte. Et en même temps, ils s'étaient toujours engagés justement à être là en soutien et à pas interférer dans leur choix, technique, leur choix de production, etc. Donc, on peut dire que c'est. Et aussi, une des choses qui fait qu'il y a un soutien pour eux aussi, c'est leur lien avec les fermes où ils ont travaillé avant, leur réseau et aussi leur culture, de faire ensemble, de travailler ensemble, puisqu'ils étaient tous les trois ont travaillé dans une SCOP avant. Alors, on va faire une deuxième petite pause musicale. Vous allez pouvoir entendre la chanson « Sur quel pied danser » de Zoufris Maracas.
Quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, même les oiseaux ont crevé, plus assez de vers de terre. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, Monsanto a même stérilisé les pommes de terre. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, les pesticides, les engrais ont pollué les rivières. Je sais plus sur quel pied danser, plein de pousses sur ma terre, les papillons au musée, les abeilles sont au cimetière. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre. L'aéroport va pousser, puis je suis pas en tête de l'air. Je sais plus sur quel pied danser, la SAFER fait ses affaires. Ils s'en vont m'exproprier pour construire un parc center. Danser, danser, sur quel pied, quand dans l'assiette, c'est la misère. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui ne pas s'en faire. Danser, danser, sur quel pied. Je sais plus sur quel pied danser. Plein de poux sur ma terre, mes sols sont contaminés aux particules nucléaires. Je sais plus sur quel pied danser. J'en ai 400 depuis hier, puis j'ai jamais su danser. Mais je danse parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui tourne à l'envers. Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui veut pas s'en faire. Danser, danser, sur quel pied, quand les bâtards sont aux affaires. Danser, danser, sur quel pied, bu le poisson dans l'assiette. Danser, danser, sur quel pied, bu le saison sur la planète. Danser, danser.
Et vous êtes toujours sur Radio Saint-Ferréol dans l'émission La Collective, dans laquelle nous parlons aujourd'hui de transmission de fermes, transmission agricole, de la transmission en particulier d'une ferme céréalière à Chabeuil, qui est devenue la 7e ferme acquise par Terre du Lien dans la Drôme. Et nous parlons de l'acquisition de cette ferme aussi parce que la transmission des grandes fermes céréalières est un enjeu partout en France et aussi dans la Drôme. Donc comme on disait au cours de l'émission, donc après-guerre, les fermes se sont concentrées, sont agrandies et maintenant sont difficilement reprenables. Et donc on sait que une ferme grande avec une seule personne dessus ou même deux personnes, et c'est souvent des fermes, on va dire, intensives en technologie, en capital et en intrants chimiques. Et voilà, donc c'est pas forcément l'agriculture qu'on défend à Terre du Lien, on défend une agriculture bio, paysanne, plutôt orientée vers les circuits courts. Ancré sur son territoire. Donc voilà, on défend des fermes nombreuses et donc à taille, comme on dit, à taille humaine. Et on parle aussi de cette transmission de cette ferme parce que du coup, dans la transmission, dans la réflexion sur comment on transmet ces fermes, il y a l'idée de restructuration, c'est-à-dire de transmission, mais pas à l'identique. C'est-à-dire qu'on redécoupe la ferme avec plusieurs activités, potentiellement plusieurs entreprises. Ça peut être une même entreprise qui a plusieurs activités. Comme tu disais, Alain, tout à l'heure, ça peut être un collectif, parfois de 5, 6, 7, 8 personnes qui ont plusieurs activités au sein d'une entreprise, soit une société classique, soit une coopérative. En tout cas, il y a vraiment cette réflexion de redécouper des fermes qui avant avaient été fusionner, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de transmission restructuration et c'est une grande réflexion en ce moment au niveau national et dans la Drôme et qui est portée par différents acteurs dont Terre de Liens. Alors pour suivre, pour avoir plus d'infos.
Oui, donc sur Terre de Liens, si vous voulez aller plus loin sur Terre de Liens, plus en détail, il y a un site sur Terre de Liens que vous pouvez trouver. Terre de Liens Rhône-Alpes, Terre de Liens National, il y a différents sites. Et je vous conseille d'y aller quand même parce qu'il y a une présentation de Terre de Liens, il y a tout le détail, il y a l'action, les fermes, etc. Il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'aller plus loin, c'est-à-dire d'adhérer. Il y a des adhésions, différents niveaux financiers. Il y a la possibilité aussi de connaître donc l'association, la fondation et la foncière. Et il y a la possibilité donc de faire des dons. Il y a aussi la possibilité de prendre des parts, sous forme d'action, pendant un certain nombre d'années, les garder, les céder, au bout d'un certain nombre d'années, dans la foncière. Donc ça, vous allez sur le site et il faut comprendre que c'est intéressant parce que cette ferme de place, pourquoi elle a pu être achetée? Parce qu'il y a des gens qui ont mis soit des dons, soit des parts hein, dans la foncière à un moment de leur vie. Et ces parts, ben, à un certain moment de leur vie, bon, ils les récupèrent. Hein. Donc on a quand même toujours besoin d'avoir un certain nombre de citoyens, citoyennes, qui adhèrent et qui prennent soit des parts dans la foncière pour pouvoir permettre l'acquisition d'autres fermes. Donc ça, vous allez sur le site, vous pouvez voir, il y a notamment la ferme dont on a parlé, la ferme des places.
Voilà, vous allez sur le site Terre de Liens Rhône-Alpes et vous allez dans la rubrique les fermes. Et là, vous verrez la ferme des places, vous verrez la collecte qui est en cours. Voilà. Ouais. Et vous pouvez aussi rejoindre et devenir bénévole. Donc, il y a le groupe de bénévoles de la Drôme se réunit souvent à Eure, parce que ces locaux, les locaux sont basés à Eure. Donc, c'est facile pour les habitants du Val-de-Drôme. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir rencontrer si vous voulez participer, vous aussi, à cette solution que propose Terre de Liens pour faciliter les transmissions.
Voilà. Alors, deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un bénévole à Terre de Liens ? Un bénévole à Terre de Liens, c'est quelqu'un qui souhaite comme le développement du bio, qui d'une agriculture qui prenne plus en compte l'environnement, les méthodes de travail, etc. Donc, bon, l'association Dromoise se réunit toutes les six semaines. Que fait un bénévole ? Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit participer, comme on l'a fait avec Marie Laila, dans les transmissions des fermes. Il y a aussi la présentation de Terre de Liens sur les forums, sur les marchés, sur différentes actions. Voilà. Donc, si on a peu de temps, ben, c'est bien. Si on a plus de temps, c'est aussi très bien. Il y a des gens qui sont très, très actifs, d'autres qui le sont moins. Il y a des gens qui sont actifs pendant 6 mois, qui ne le sont plus pendant d'autres 6 mois, etc.
Et oui, et cette fois-ci, dans pas longtemps, là, le 12 novembre, pour la première fois, le groupe de bénévoles Terre de Liens organise un ciné-débat au cinéma Le Navire à Valence. Donc c'est mardi 12 novembre à 20h30 et ce sera la projection du film Bienveillance paysanne dans le cadre du Festival alimentaire et dans le cadre aussi de cette collecte dont on vous a parlé. Et il y aura donc des bénévoles Terre de Liens pour discuter à l'issue du film, mais aussi un ou plusieurs fermiers de la ferme des places dont on vous a parlé. Donc si vous voulez les rencontrer, échanger avec eux, voir comment se passe leur transmission, et ben n'hésitez pas à y aller. Ce sera au cinéma Le Navire à Valence le 12 novembre à 20h30. Eh bien, je crois que cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez réussi à... que vous avez appris des choses. Et merci beaucoup, Alain, d'être venu faire cette émission avec moi.
Merci, Marie-Léla.
Et aussi, si vous voulez devenir... si vous voulez vous essayer, vous aussi, à la radio, eh bien, c'est ouvert. C'est comme Terre de Liens, vous pouvez juste passer, contacter, appeler à la radio et puis on vous accueille, on vous explique comment ça se passe, on peut vous mettre en lien avec d'autres bénévoles pour enregistrer une émission avec vous. Vous pouvez aussi vous former, voilà, apprendre. Il y a plusieurs formations qui sont organisées à destination des gens qui veulent faire de la radio, qui veulent devenir bénévoles de Radio Saint-Ferréol. Donc, n'hésitez pas à passer. On est situé place du Général de Gaulle, en haut de la Maison des Associations, qui est à gauche de, enfin, au-dessus de l'Office du Tourisme, en fait. Voilà, donc en prenant les escaliers à gauche de l'Office du Tourisme. Eh bien, c'était un plaisir et on vous laisse avec Kenny Arcana avec son morceau Retour à la Terre.
Conscience cosmique, étoile éternelle, enfant de l'insomnie, enfant de père-mère. Vérité enfouie, pas seulement derrière. Sous le béton, la terre vit et n'appartient qu'à elle-même. tant que les cieux le permettent. Le souffle nous habite pendant qu'on reproduit la même guerre que les pères de nos pères qui reproduisaient la même que les leurs immémoriales querelles gratte-ciel qui veulent rivaliser le créateur. Troupeau de délateurs, spectateurs dans le réacteur. Acteur inactif, individualisé jusqu'à se sentir seul même au sein de sa propre famille. Occident, tes valeurs humaines sont parties en éclats. On s'est durci, on ne s'en remet pas. Des siècles de dégâts pervers imprimés dans nos gènes certes traces d'inquisition dans la cervelle. On a peur de penser, sans ça la chute est certaine. A-t-on renoncé à trop voir vérité se faire taire. Enfant de la même terre, reforme la chaîne ancestrale lignée. Que la mémoire nous revienne, qu'elle puisse enfin briller dans nos ciels indignés comme nos frères tant de destins brisés. Alors laisse-moi prier. Là où les murs nous cachent l'horizon, les frontières nous divisent, on crève affaibli en se divisant. On ne positive rien en minimisant, tout s'accélère depuis 10 ans. Jusqu'à quand on se regardera mourir par peur de dire non. Regarde le monde en dit long sur notre folie. Paraît qu'on en guérit petit à petit en se livrant. Le cœur qui bat car on est vivant. Combien voient le miracle, cherche le sun qu'il pleuve ou qu'il vente. On fait partie de l'histoire, personne vaut plus qu'un autre. À la mémoire de nos promesses, oui on marchera jusqu'à l'aube. À la mémoire de l'homme connecté à la terre qui parle aux arbres et aux fleurs, aux astres et aux fleuves, au cœur aussi grand que la mer. La ville nous tue, impur, je clame un retour à la terre, à notre nature, à nous-mêmes, à briser notre armure avant que tout s'éteigne. En nous un joyau brille, soyons fous et soyons dignes, soyons nous et soyons libres. Bénissons ceux qui croient en l'amour grand Dieu, car comme m'a dit un jour des frères, plus croire en rien c'est croire en eux.